Il y a très longtemps que je n'ai plus fait un enseignement sur la première vérité noble, qui est quelque chose de fondamental dans le chemin intérieur. Le Bouddha a découvert ces quatre vérités sous l'arbre de la Bodhi, à Bodh Gaya, après avoir fait des austérités puissantes pour trouver la libération. Et ces quatre vérités sont une manière de dire la libération par la rencontre avec l'ombre. Et au fond, c'est pareil dans toutes les grandes traditions mystiques. Lorsque le Christ accepte de mourir sur la croix, pourquoi est-ce qu'il accepte? Pourquoi est-ce qu'il va dans cette rencontre avec Dukkha? Avec la souffrance tellement puissante, c'est parce qu'il sait que c'est à travers ce trou de l'aiguille que se trouve la résurrection. Et c'est tout le chemin intérieur que le Bouddha nous propose. Comment transcender la souffrance? Donc la première vérité, c'est celle de Dukkha. Il y a souffrance à tous les niveaux. D'abord, une vague insatisfaction. Le monde ne nous donne pas vraiment ce que nous attendons. Quelque chose qui est toujours. Pourquoi est-ce que nous désirons toujours quelque chose? C'est que le maintenant n'est pas assez. Mais il y a la souffrance. La cruauté du monde, la douleur physique, la faim, le froid, nous sommes vulnérables, la maladie, la vieillesse, les privations. Terrible ce que la nature humaine est vulnérable. Nous sommes totalement dépendants de tellement de conditions, simplement le corps. Reconnaître ce dukkha-là. Nous avons des souffrances psychologiques, émotionnelles, de l'angoisse, de l'isolement, de la révolte, le cœur de l'homme est sensible et la méditation ne va pas le rendre insensible. Elle va reconnaître cette sensibilité. Et combien nous pouvons souffrir parce qu'un autre nous a agressés ou nous a ignorer parce que nos proches souffrent et nous souffrons de leur malheur. Il y a Dukkha, nous pouvons reconnaître que c'est là et ça crée une ouverture du cœur parce que même si il y a des souffrances évidentes dans les pays en guerre, dans les pays qui vivent la famine, dans les endroits où il y a cette cruauté interrelationnelle, ce non-respect de l'autre. Mais dans les pays nantis qui ont beaucoup, la souffrance semble être moindre, mais peut-être pas. Ça n'est pas forcément dans les pays où il y a la misère qu'il y a le plus haut taux de suicide. Le burn-out. Combien de personnes ne peuvent plus faire avec ce monde comme il est là? Il est trop, il y a trop, il y a trop. On n'arrive plus à s'arrêter, c'est une espèce de fuite en avant, on ne sait plus où on va, on perd nos repères. Et pourtant, on a tout, on a beaucoup trop. On a beaucoup trop. Et on veut toujours plus. On ne peut pas s'arrêter. Ça, c'est dukkha. Et c'est vrai que le cœur s'ouvre quand nous sommes conscients de cette impuissance. Et puis, dukkha, c'est aussi le simple fait que le monde est duel. Nous vivons dans ce qu'on appelle le samsara. C'est ce monde dans lequel nous sommes tombés. On pourrait dire que nous tombons d'une conscience universelle, unifiée, d'un endroit de plénitude ou de rien. C'est pareil. Et nous tombons dans ce monde où il y a l'impermanence. Tout est impermanent. Alors il y a les 10 000 joies, d'accord, mais il y a aussi les 10 000 peines. Et ça aussi, c'est dukkha, cette sorte de manque fondamental que nous cherchons à combler dans le relationnel, dans les loisirs, dans divers quête d'équilibre, quelquefois dans des choses moins aidantes, comme des abus divers. Maintenant, nous croyons nous équilibrer en pianotant toujours sur nos portables. Ça meuble cette espèce de manque qui est là. Et après, nous sommes pris par des habitudes. Dukkha, c'est dukkha. Il y a dukkha. Ça n'est la faute de personne. Il n'y a pas une erreur quelque part. C'était pareil il y a 2500 ans, sans informatique, sans croyance que le monde va à sa perte. Il croyait sûrement aussi que le monde allait à sa perte autrement. Depuis 2500 ans et dans les 2500 ans à venir, dukkha est là, il y a. Je me souviens que ça m'avait beaucoup, au fond, rassurée quand on m'avait dit « Mais c'est comme ça, c'est normal si tu souffres. Tu ne fais pas une erreur quelque part. Tu n'as pas un devoir d'être heureuse. » Ah, ouf. Ça, c'est la première vérité, il y a dukkha. Et dans une retraite, nous pouvons bien le voir. On pourrait dire que, je me souviens, mon petit-fils qui avait vu sortir on était au Mont Pèlerin, Timour était tout petit, il était tout petit, puis on avait vu sortir les moines qui venaient du temple, puis il avait regardé, puis il a dit, oh, les Bouddhas. Pas sûr, hein? Parce que si quelqu'un vient nous voir, là, dans notre salle de méditation, tous assis, tranquilles, waouh, tous ces Bouddhas. Mais si on va regarder à l'intérieur, pas toujours. Et c'est extrêmement bénéfique de pouvoir conscientiser ce dukkha dans la réalité d'un corps et d'un esprit. Comment ça fonctionne? Et comment nous pouvons déjà voir et entendre et nommer? Ah oui, il y a dukkha. les obstacles en retraite. Peut-être on peut faire une toute petite aparté sur les obstacles, parce que c'est important de nommer. Quelqu'un parlait de l'importance de nommer quand on a eu le partage après, avant le repas. Et tous ces obstacles, c'est très aidant de simplement les nommer. Ah, il y a de l'agitation. Ah, il y a de l'aversion, de l'impatience, du doute. Waouh, j'en peux plus. C'est quoi ça? Ah, aversion. Ah, quand c'est qu'on va bientôt avoir le dîner? Ah, c'est quoi? Désir. C'est quoi ça? Somnolence, torpeur. On fait des bons petits scénarios, plus ou moins clairs, qui font passer le temps. Parce que c'est dur d'être face à l'ennui. Je vous lis les images en lien aux obstacles. Le désir, qui est vu comme une eau colorée, lorsque j'ai un désir, je ne peux pas vraiment être là, parce que ça colore la conscience, elle est toujours un petit peu plus loin. Elle ne peut pas vraiment revenir là. L'esprit est toujours occupé par le problème d'acquérir assez pour pouvoir rembourser une dette. On le compare à une dette. C'est vrai que quand j'ai une dette, je ne peux pas y être parce que je dois combler. L'aversion, on peut la voir comme une eau qui boue. On ne peut pas voir à travers. Non pas parce qu'elle est colorée et jolie, mais parce qu'elle boue. Et on la compare à une maladie. L'esprit est toujours occupé à lutter contre quelque chose qui nous gêne. La torpeur ou la somnolence, c'est une eau qui est pleine d'algues ou de mousse. C'est complètement recouvert. On ne peut absolument pas voir même un tout petit peu de la clarté de l'eau. Et elle est comparée à une prison. L'esprit est enfermé dans son opacité et ne voit absolument plus rien. Le doute, c'est une eau boueuse. Et c'est comparé à une errance dans le désert. L'esprit est perdu dans une immensité. Il tourne en rond et il ne trouve plus son chemin. Merci. Et nous pouvons les nommer, ces obstacles, lorsqu'ils sont là, et voir comment, au moment où je les nomme, et que je dis « il y a » plutôt que « je suis », quelque chose se passe. Au lieu que nous soyons totalement pris dans l'expérience, nous commençons à nous détacher et à pouvoir voir, à pouvoir contempler le dukkha du moment. C'est Ajahn Tejaniya qui dit: ne pas accepter les obstacles va seulement les renforcer. Les obstacles empêchent vos progrès en méditation et vous empêchent de vivre votre vie pleinement. Ils vous empêchent aussi de trouver la vraie paix et la liberté. Ne méprisez pas les obstacles, ils vont se moquer de vous. Donc notre attitude, c'est de voir qu'il y a un esprit qui travaille derrière, qui fait œuvre de sagesse, de connaissance. C'est ça la connaissance, c'est une connaissance directe dans l'instant. Ah, Yaduka. Et vous pouvez dire, plutôt que de dire « je suis inquiète », ah, là il y a le dukkha de l'inquiétude. Qui est-ce qui n'a pas d'inquiétude dans cette salle? Qui est-ce qui n'a pas d'agitation? Ça ouvre le cœur. Ça nous sort de notre isolement. Et ce vague sentiment, je fais faux, je devrais faire autrement, j'arrive pas. Non. Les choses telles qu'elles sont, c'est le réel du maintenant, c'est avec ça que nous travaillons. Nous ne pouvons pas travailler ailleurs. Tout le reste, ce sont des projections, des rêves. Donc d'abord, nous pouvons reconnaître qu'il y a souffrance, la nommer lorsqu'elle émerge, et puis la comprendre. La comprendre, c'est l'explorer, c'est lui faire un peu d'espace. C'est désagréable, on est d'accord. Ça demande un peu de courage et de sagesse. Je sais que c'est le chemin. La conscience se fortifie. Dans cette ouverture à Dukkha, quelque chose se met en place à l'intérieur. Au lieu que nous soyons toujours dans la prison de ce qu'on appelle les trois A, l'avidité, j'aime, je veux, je garde à moi, le rejet, je n'aime pas, je rejette loin de moi. Je ne veux pas. Et ces deux mouvements, c'est ce qu'on appelle l'aveuglement, c'est la manière qu'a le moi au niveau ordinaire de fonctionner quand il est laissé à lui-même. Au lieu d'être dans cette prison, nous venons dans quelque chose de tout à fait différent, c'est cet intérêt, cette qualité d'investigation. Attends. C'est comment juste maintenant? Et puis si ça serre un peu dans la poitrine, je sens ça serre dans la poitrine, si ça coince au niveau du... Des fois on ne peut plus parler tellement l'émotion est forte. Hein? Ça me prend là. Ah oh, mais je ne peux plus parler. Je vois, je ne peux plus parler. Oh. Et cette manière d'accompagner le maintenant par la conscience, c'est ce qu'on appelle un chemin de purification. Nous purifions ces kilesas, ces obstacles, ces ombres auxquelles nous croyons, nous y croyons. Et alors peu à peu, au lieu de se contracter quand il y a souffrance, ça s'ouvre. Ok, c'est le maintenant. Et l'énergie est totalement différente. Dans toutes les traditions, cette manière de faire est dans toutes les mystiques profondes, disons. Cette manière de faire est proposée, développée, cultivée. J'aimerais vous lire trois petites paroles d'une autre tradition parce que je trouve que ça dit bien la vérité de cette première vérité. Parce qu'elle est vraie seulement si je la fais vraie. Elle n'est rien en elle-même. L'homme fort est celui qui s'est enfoncé profondément dans la faiblesse du Christ. Écroulement de la force factice, du plein de soi, de l'agitation ridicule de la fourmi qui croit bâtir le monde. Tout anéanti, il dit, Seigneur, je ne suis plus rien. Et à mesure que s'écroulait sa force humaine, la force de Dieu le remplissait. C'est ce retournement de laisser l'expérience nous bouffer la vie à mettre la conscience en priorité et se mettre debout face à l'expérience. On peut appeler la conscience Dieu, peu importe. C'est cette force qui équilibre la vulnérabilité humaine. Et puis une autre parole des moines du désert qui dit « Garde ton âme en enfer et ne désespère pas. » Je me souviens exactement du moment où j'étais vraiment dans le trou. Et puis c'est une copine qui m'a donné cette parole. Oh, ça m'avait fait tellement de bien. Mais j'ai pas besoin de faire autre chose, d'aller ailleurs, juste de ne pas désespérer, de garder ça en conscience. Et l'autre, la vraie prière et l'amour ne peuvent être vraiment que dans l'heure où la prière est devenue impossible et que votre cœur est devenu pierre. C'est ce chemin où nous abandonnons, nous lâchons prise, nous acceptons de nous laisser perdre pour que le Dharma nous habite. Et ça peut se faire tout le temps, maintenant. Est-ce que je suis là? Une respiration consciente et la reliance entre la conscience et l'expérience se crée. Et c'est un moment d'éveil. C'est un moment d'éveil. Mais nous ne le savons pas, ou nous ne le savons pas assez. Et alors, lorsque nous travaillons de cette manière avec les choses telles qu'elles sont, aussi lorsqu'elles sont bonnes, voilà que j'ai un super bon karma à tous les niveaux, je suis bénie. Ok. Anicca, ça change. Et ne pas oublier ça, ne pas oublier que la vie est duelle par nature. Et le moi a tendance à vouloir rendre permanent ce qu'il aime bien. Heureusement, il est bien d'accord avec l'impermanence quand il y a ce qu'il n'aime pas. C'est son fonctionnement. Et à un moment donné, nous avons compris. J'ai compris. Le Bouddha dit que c'est cette première vérité, d'abord je l'entends, je m'intéresse un peu, tiens, peut-être que oui, pourquoi pas. Et puis après je me révolte, il y a tout, on est complexe. Puis peu à peu, parce que je pratique, parce que je vérifie en moi-même, parce que je réalise, alors je vois, ben ouais, c'est vrai que je peux peut-être faire confiance à ces choses comme elles sont là. Je peux peut-être m'intéresser. Je peux peut-être avoir le courage de ne pas prétendre. Parce que qu'est-ce que nous faisons en général quand c'est un peu menaçant? Soit je prétends, soit je rejette, soit je meuble. J'évite de faire un truc pour ne pas m'en cacher. Ou bien j'évite. Je me sous le paillasson. Et ça, ce sont des attitudes qui, peu à peu, deviennent de manière évidente inutiles. Je ne fais que repousser le problème en faisant ça. Et comment est-ce que nous faisons pour arrêter ces fonctionnements du système défensif qui sont souvent bien ancrés, eh ben je vois. Hein. Ouh, ça y est, voilà que j'évite de nouveau. Ouh, voilà que je meuble de nouveau. Comment c'est quand je meuble? Ah, voilà que chez nous, on pétard contre ce truc. Comment c'est quand je suis en pétard? Et nous avons compris, donc il y a une confiance qui s'installe, une confiance gratuite, non pas une confiance parce que ce qui est là, c'est quelque chose qui va me nourrir, qui va me faire du bien, c'est selon mes valeurs, c'est harmonieux, c'est... Non, c'est une confiance gratuite par rapport au maintenant tel qu'il est là. L'autre jour, je vous raconte une petite histoire, parce que c'est des fois très parlant. Quelqu'un m'a dit, je sais pourquoi je la re-raconte, parce que quelqu'un m'a dit que ça, c'était parlant. J'avais mon bras comme ça dans le plâtre, je ne pouvais rien faire avec ce bras, j'étais dépendante de tout le monde. Et puis je suis allée chez mon fils, j'ai dormi chez lui parce que mes petits-enfants allaient à l'école le lendemain, puis j'étais là, lui avait une veille. Et c'était sympa l'après-midi, on a bien rigolé. Puis le soir, le truc, je ne sais pas si vous connaissez dans les familles, c'est toujours le truc. Et tout d'un coup, ça y est, je dis ce qu'il ne fallait pas. Puis il me dit que je ne le soutiens pas. Ok, on connaît. Je m'endors très mal, je dors très mal. Je n'ai pas réussi à enlever l'internet. Enfin bref, mauvaise nuit, puis à 4h du matin, je me suis dit non mais franchement, c'est moi qui dois être soutenue, avec mon pauvre bras, je peux pas le soutenir, je peux absolument pas le soutenir du tout, il y avait une espèce de révolte qui venait, et puis il revenait de sa veille, puis je me suis dit non, je peux pas, j'ai envoyé mes petits-enfants à l'école, enfin je les ai envoyés, ils sont grands, mais voilà, je les ai accompagnés, et puis... Je me suis dit, non, je ne peux pas rester là. Je ne veux pas rester là, il ne me soutient pas. Je ne suis pas en sécurité dans cette maison. Moi, j'ai besoin de soutien. Je pars. Alors, je suis partie avec mon bras, mon chien à la laisse. Un gros sac à dos que je n'arrive jamais bien à mettre avec mon bras. J'étais malheureuse. J'étais la plus malheureuse du monde dans cette ville. Je ne pouvais pas rentrer chez moi parce que chez moi, j'arrive à la gare. Qui c'est qui vient me chercher à la gare? Je ne peux pas conduire. Toute seule à la gare, je dois de nouveau demander à une copine, mais moi je peux plus demander, je demande tout le temps. Bon, puis à midi et quart, j'avais rendez-vous à Lausanne, donc je pouvais pas rentrer à Oron parce qu'après je devais revenir à Lausanne, je pouvais pas conduire. Bref. Et c'était magnifique parce que je sentais, c'est vraiment une attaque de Vibhavatanha, le besoin de non-existence. J'étais vraiment dans la non-existence totale, mais la conscience était vraiment là. Et puis il y avait une espèce de jubilation en même temps que c'était franchement dur, hein, franchement dur. À un moment donné, je me suis dit, non, mais pourquoi t'irais dans Vibhavatanha? D'accord, ah, tu vas chez lui, puis tu lui passes un savon. Il ne te soutient pas. Oh non, mais ça, je ne peux pas faire, parce que tu comprends, ce n'est pas mon style. Moi, mon style, c'est d'être malheureuse. Je suis obligée de suivre mon style. C'était pas mal, quoi. Dukkha. Et c'est vrai que quand Dukkha est au fond valorisé, parce que je sais qu'en allant là, en acceptant d'aller là, la confiance se construit. Je sais que ça fortifie quelque chose dans le sens du lâcher prise. Il y a plus de moins d'orgueil, moins de complexité, moins de... Si la souffrance émerge et que je veux le bonheur, c'est quoi? C'est la souffrance. Si la souffrance émerge et puis que je l'accueille, c'est quoi? C'est le chemin. Et au fond, ça rend heureux maintenant. Alors je vous lis encore une petite parole que j'aime beaucoup, qui vient de Henri Gougaud, comment ça s'appelle? Je ne sais plus. Oui, ça s'appelle comment ce bouquin de Google?
Les sept plumes de l'aigle.
Les sept plumes de l'aigle, merci. L'ombre s'est approchée avec son cadeau. Seigneur Dieu, j'étais tout à coup comme un enfant à Noël, le souffle court, le cœur battant. Les yeux grands ouverts, je l'ai accueilli. Je ne sais combien de temps, des heures peut-être, peut-être un bref instant. Je suis restée dans le silence, amoureux de l'ombre. Ne cours pas après la connaissance, Louis. La connaissance est toujours là où tu es. Ce n'est pas El Choura qui m'a dit cela, c'est l'ombre. Elle était vraiment comme une femme amoureuse. Elle m'a dit, désire-moi. Chaque fois que tu me désireras, je viendrai. J'obscurcirai tes contours. Je ferai de toi un homme inaperçu. Je protégerai ton travail, tes plaisirs, ton être. Je t'aiderai aussi à te tenir éveillé. La lumière endort la vigilance. Moi, l'ombre, je la ravive sans cesse. La lumière efface la profondeur. Moi, l'ombre, je suis sans fond. N'oublie pas, quand tu es en moi, la lumière, c'est toi. Chaque fois que tu le voudras, je te laverai de tes certitudes paresseuses. Je t'apprendrai à dire encore, encore, encore. Et je t'entraînerai toujours plus loin dans les mystères de la vie. Elle a parlé ainsi à mon corps, à l'air que je respirais, à ma cervelle offerte. Quand je suis partie, j'étais en paix avec le monde et j'étais propre comme un sou neuf. Et alors, ce qui est bienfaisant lorsque nous libérons le corps et l'esprit de toutes ces croyances qu'il faudrait que les choses soient autrement, quelque chose devient disponible pour les autres. J'ai moins besoin de tellement m'occuper de moi. Quelque chose s'ouvre. Et la générosité et le service, c'est un magnifique cadeau que nous nous faisons. Non pas la charité chrétienne où je dois, du tout. Ce partage en toute liberté de notre humanité. Ce que nous apprenons au fond, c'est que la première flèche va être là quelquefois, pas toujours, hein? Mais c'est comme dit El Choura, l'ombre. Lorsque tout va bien, c'est comme si on emploie un potentiel, mais on se vide. Intérieurement, souvent quand tout va bien, c'est un peu mort. Et quand tout va mal, on peut sentir tout d'un coup, ça se ressaisit. La quête se met en place. Donc, la première flèche, c'est l'aiguillon naturel de l'impermanence. Quelquefois, nous nous réveillons le matin, puis nous ne savons pas pourquoi, mais encore un jour. Dur. Puis d'autres fois, on se réveille le matin et puis, waouh, hein, le monde m'appartient. C'est pas toujours dépendant de quelque chose de visible. C'est vraiment l'impermanence. Et lorsque nous apprenons à ne pas laisser venir la deuxième flèche, c'est celle qui dit quand tout va bien, waouh, tout va bien, j'y vais, mon café, mon truc, mon machin, voilà. Tout va mal. Oh, tout va mal. Pourquoi ça va mal? Qu'est-ce que j'ai encore fait? Comment je pourrais faire pour que ça aille bien? Non, ça, c'est le monde ordinaire qui fonctionne de cette manière. Mais lorsque nous pratiquons la méditation, nous commençons à fonctionner autrement. Et nous avons cet intérêt. Ah, tiens, ce matin, c'est le verre plein. Ah, bah, ce matin, c'est le verre vide. Mais il y a le même intérêt. Le même, c'est ce qu'on appelle l'équanimité. Lorsque c'est douloureux, il y a la compassion. Mais la compassion, ça n'est pas de la pitié. C'est une ouverture du cœur. Parce que c'est dur quand le verre est vide, c'est vrai. C'est dur quand on tombe malade. C'est dur quand au niveau relationnel, on se sent à l'étroit. Et on peut avoir la compassion. C'est un accompagnement. Ce n'est pas un rejet, ni une peur du maintenant. Et quand il y a la joie, quand l'expérience est bonne et heureuse, on peut vraiment se réjouir, mais sans être dupe. Ça va passer. Et alors, cette équanimité se met en place par rapport à Dukkha. Et nous avons compris. Et lorsque nous comprenons ça, nous nous rapprochons de ce cœur de l'être qui est notre Bouddha intérieur, notre sagesse. Cette confiance fondamentale, indestructible, d'inébranlable paix du cœur, dit le Bouddha. C'est le Bouddha qui dit « Souvenez-vous de qui vous êtes vraiment. » Oh, ça m'étonnerait que ce soit lui qui dise ça, hein. C'est pas le Bouddha qui dit, mais c'est... Souvenez-vous de qui vous êtes vraiment. Souvenez-vous du Bouddha en vous, celui qui peut être éveillé est là, présent. Souvenez-vous de votre propre nature de Bouddha. Ça m'étonnerait que le Bouddha soit appelé le Bouddha. Pour ça que je dis ça. Mais c'est une très belle parole, et c'est vrai que d'avoir cette connexion avec le cœur de l'être, qui est du rien, hein, c'est du rien, ça fait tellement du bien, parce que l'orgueil et la vanité, mais c'est une terrible souffrance. La peur du regard de l'autre, le besoin d'avoir un rôle, de... Ah, c'est lourd. Et ça, il n'y a pas besoin... Au fond, c'est la vision claire qui se développe. Le dukkha, c'est aussi cette confusion où je n'ai pas les outils nécessaires pour que mon regard sur le monde me permette de traverser la vie sans rajouter de la souffrance à la souffrance. Et faites l'expérience parce que nous entendons ces paroles du Bouddha, ces nouvelles manières de nous lier à l'expérience, mais ce qui va les rendre vrais, c'est que nous les vérifions, nous nous les approprions, ça devient mon vécu. Donc ne croyez rien dans un enseignement ou dans une lecture, ne donnez aucun pouvoir à l'autre, mais vérifiez, le Bouddha l'a dit et redit. Ce n'est que chacun d'entre nous qui donne la qualité de noblesse à toutes ces paroles. Autrement, c'est des paroles. Mais quand je peux en faire quelque chose, ça devient précieux. Je finis avec un passage du Samyutta Nikaya, je crois. C'est ce que Bhante lit toujours. Qui c'est qui a fait les retraites avec Bhante Bodhidharma? C'est la parole que Bhante aime bien dire. J'aime beaucoup. Toutes les choses conditionnées sont impermanentes. Quand ceci est perçu avec sagesse, on devient désenchanté de ce qui ne peut pas nous satisfaire. Juste ça est le chemin de purification. Toutes les choses conditionnées sont insatisfaisantes, elles sont dukkha. Quand ceci est perçu avec sagesse, on devient désenchanté de ce qui ne peut pas nous satisfaire. Juste ça est le chemin de purification. Toutes les choses conditionnées et l'inconditionné sont non-moi. Quand ceci est perçu avec sagesse, on devient désenchanté de ce qui ne peut pas nous satisfaire. Juste ça est le chemin de purification. Il y a le non-né, le non-mort, le non-créé, l'inconditionné, refuge, havre et demeure, parfait contentement et paix. Tout comme le grand océan n'a qu'un seul goût, le goût du sel, de même, le nirvana n'a qu'un seul goût, le goût de la liberté. Toutes les choses conditionnées ont la nature de décliner. Travaillez avec diligence pour votre libération.